France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Le légume est un symbole de la fin de l'hiver.
Les asperges blanches, moi, c'est, je pourrais manger ça sur la tête d'un pouilleux, moi.
Moi, je ne peux pas considérer l'asperge verte comme une asperge, parce que c'est très, très, très différent. Hein. J'aime quand elles sont plutôt fondantes. Je pense que je préfère les grosses.
Alors, en fait, l'asperge, le but, c'est qu'elle soit le plus blanche possible. Dès qu'elle va sortir de quelques centimètres au-dessus du sol, elle va commencer à prendre le soleil, et donc rose, violet, verte. Le vert, c'est un bronzage naturel, et en plus de ça, ça donne un petit peu plus de goût à la pointe. Donc, il y en a pour tous les goûts.
L'asperge inondera les étals des marchés jusqu'à la fin du printemps.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. L'attente est longue, la saison est courte, l'envie est grande. Certains et certaines, comme Hélène Darroze que l'on recevait la semaine dernière, pourraient même en manger sur la tête d'un pouilleux. Je parle d'un légume qui déchaîne les passions, l'asperge. Blanche ou verte, d'Alsace, des Landes, de Provence et même de Belgique, on va le voir, ou d'Algérie. Elle a colonisé les potagers du monde entier. Et on va en apprendre de belles sur l'asperge grâce à un livre comme on les aime, petit traité de l'asperge aux éditions du Sureau, de Pierre-Brice Lebrun et Martin Fache. Et ces deux auteurs, ça tombe bien, sont nos deux invités du jour. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pierre-Brice Lebrun, vous êtes belge de naissance, landais d'adoption. Professeur de droit dans la vraie vie et le reste du temps, ben, vous le passez à table. En oui. Qualité de gourmet érudit, auteur de nombreux ouvrages de gastronomie, vous étiez venu ici à ce micro nous parler aussi de pois chiches.
Oui, de boulettes aussi.
De boulettes. Absolument, là, ouais, ça fait quelques années quand même. Alors Martin Fache, père auvergnat, mère alsacienne, vous avez été chef de l'Agneau d'Or à Münster dans le Haut-Rhin avec votre femme Marie-Josée. Vous êtes membre, attention, oulala, hein, de l'Académie Nationale de Cuisine, de la Fraternelle des Cuisiniers, de la Confrérie de la Choucroute, de l'Association des Sommeliers d'Alsace et vous avez été secrétaire général de l'Association Française des Maîtres Restaurateurs, c'est bien ça?
C'est cela, tout à fait.
Président aussi de la Fédération des Chefs d'Alsace?
Oui, il fait un temps de mon activité, effectivement.
Ça en fait quand même des titres.
Bon, des titres.
Bravo pour votre implication.
C'est plutôt de l'implication au niveau de la vie professionnelle et de promouvoir la bonne cuisine.
Eh ben oui, mais ça compte. Merci beaucoup d'être là. Elles sont assurément aspergophiles.
Ah oui.
Et elles sont avec nous tout au long de cette émission. Elvira Masson, Céline Maguet, bonjour à toutes les deux.
Bonjour à toutes et tous.
Elvira.
On va partir en Bretagne, qui n'est pas la région qui vient tout de suite en tête, j'avoue, quand on parle d'asperges.
Ben, oui, c'est vrai. D'ailleurs, elle n'est pas forcément évoquée dans votre petit traité.
Et non, on n'a pas pu les faire toutes, on aurait bien voulu.
Mais voilà,
il y a partout de l'asperge.
Elvira va réparer une injustice. Céline ?
Moi, je vais vous donner quelques conseils pour tordre le cou à cette idée reçue, comme quoi les asperges ne s'accordent pas bien avec le vin.
Vous avez raison, vrai casse-tête que vous allez peut-être résoudre. Céline Maguet, réagissez en direct dans notre émission en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com et retrouvez tous les contenus et les podcasts de notre émission sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Comme chaque dimanche ou presque, on démarre avec une petite surprise gourmande que je vous fais déguster à l'aveugle. Vous me regardez, Pierre-Brice, comme si j'allais vous tendre un énorme traquenard.
Rassurez-vous. Pas du tout, je suis en confiance.
Ok. Vous avez, sous vos micros, messieurs, mesdames, des spécialités. Alors, attention, c'est des spécialités différentes, mais vous allez voir qu'elles ont un point commun. Martin et Pierre-Brice, on commence avec vous. À vous de croquer.
C'est croquant déjà.
Bravo. C'est croquant, on peut le dire. D'ailleurs, ça s'entend au micro.
Oui. De la noix.
Bravo.
Pour moi, de la noix, tout à fait. Rien que la vue.
Oui.
À l'odeur, on trouve un peu de curry.
Bravo. En voilà un mot qui m'intéresse. Ouais, noix, curry, vous avez presque la solution des jeux.
Des noix au curry.
Noix au curry. Des cerneaux de noix au curry. Un peu salé, hein. Des cerneaux, des cerneaux de noix apéritifs. Vous aimez ou pas?
Ouais, c'est très bon.
Il y a une petite épice censée être dominante.
Ah.
Cumin.
Non, je ne l'aurais pas forcément senti.
Mais en tout cas, vous avez eu le curry quand même, Martin Fache. Vous n'avez pas le palais en carton, c'est une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, oui.
Merci.
Non, mais vous aimez ou pas?
Oui, tout à fait.
Ça vous va?
Ah oui, très bien, oui.
Bon, alors on passe à Céline Maguet, là on passe directement au dessert.
Ouais, j'ai la version sucrée, un peu plus cachée parce qu'elle est entourée de chocolat, donc on devine moins la noix type noix de Grenoble.
C'est vrai.
Petite pointe de sel, c'est très bon. C'est très peu sucré, le chocolat est bien noir, type 70%. Très agréable.
Mais c'est un chocolat 70%. Céline, vous avez triché ou vous regardez mes fiches?
C'est juste une très bonne élève.
Très bonne dégustatrice, absolument. Un cerneau de noix enrobé d'une fine pellicule de chocolat noir, un tout petit peu de fleur de sel, en effet. Ça, c'est la noix plutôt pour accompagner le café, par exemple.
Oui, comme ça, en passant.
Voilà, comme ça, en passant. Et on passe, alors j'ai un peu compliqué l'équation avec ma voisine de gauche, Elvira Masson. Qu'est-ce que vous goûtez?
Alors moi, j'ai un petit pot dans lequel il y a une préparation qui ressemble à une confiture.
Oui.
Et c'est de la noix et de la figue.
Bon, ben
et
voilà.
C'est délicieux. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus.
Non.
Est-ce qu'il y a de la vanille? Est-ce qu'il y a...
Non.
Mais c'est, voilà, c'est une confiture délicieuse et c'est très bien. Je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin, donc si quelqu'un a un petit morceau de pain...
Bon, vous êtes carrément super fortiche. Je vous félicite. Eh bien écoutez, c'est une histoire de noix, en effet, mais qui est loin d'être une histoire à la noix. Mmh. Nok, N-O-K, c'est l'histoire de Hortense de Castries, dont le grand-père a planté dans les années 70 un verger de 20 hectares de noyers dans la région d'Angers, on est dans le Maine-et-Loire. Elle a repris le flambeau familial et s'est associée avec Éric Loise, qui est producteur de noix en Belgique, du côté de Gambloux, dans la province de Namur. Et ensemble, hein, c'est une histoire franco-belge, j'ai pensé à vous, cher Pierre Brice-Lemain, et ensemble, Hortense et Éric, ces deux nuciculteurs passionnés et bio, ont créé cette marque, Nok, qui décline leurs fruits préférés dans des produits gourmands, sucrés, salés, en cerneaux apéritifs, comme vous les avez goûtés, mais également en confiserie, ils font une huile de noix exceptionnelle. La noix se décline vraiment dans tous ses états, et c'est encore une fois entièrement bio. Et comme la noix peut, vous le savez, devenir rance assez vite, et ben Nok conserve ses fruits en coque et les casse au fur et à mesure pour ne surtout pas qu'elle s'oxyde. Voilà. Et la marque Nok a même entrepris des collabs, des guimauves à la noix avec la maison Carousel. Et cette confiture figue-noix, Elvira, est réalisée avec la maison Muroise, une fabrique de confiture au chaudron, vous savez.
Ah, qui fait des très très bonnes confitures.
Absolument, pilotée par Estelle et Magali. Deux artisanes
sucrées, pas trop sucrées.
Pas trop sucrées. Deux artisanes confiturières aventurières, comme elles aiment à se définir. Et je vous offre le pot, figurez-vous.
Oh, je suis chanceuse.
Bah écoutez, comme vous avez été
merci.
Bon. Et puis il y a plein de sachets de Nok, cerneaux de noix pour l'apéritif, curry cumin et quelques autres. Je vous les remets. Hortense de Castries, décidément passionnée par son fruit, le fruit qu'elle cultive dans l'Anjou. Et bien, elle a écrit un livre avec des recettes très inspirées autour de la noix. La noix 101 recettes et 4 saisons aux éditions Racine. Voilà, un livre sur la noix. Et preuve que la noix se marie bien avec l'asperge, Martin Fache, j'ai pioché dans votre petit traité de l'asperge une recette de croque d'asperge au camembert et à la noix.
Tout à fait. Le croque d'asperge, camembert, noix, je me suis inspiré un petit peu de notre ami Pierre Brice qui avait fait un petit traité du camembert.
Et oui,
donc
c'est vrai.
Le petit clin d'œil au petit traité du camembert pour ce croque à la noix.
Donc vous confirmez que l'asperge fait un mariage d'amour avec la noix?
Tout à fait.
Ben écoutez, c'est une excellente nouvelle.
Tous les fruits à croque, noix, noisettes, amandes grillées peuvent se marier avec l'asperge très facilement.
Et vous nous réservez de très très belles recettes, y compris une recette sucrée avec de l'asperge blanche. On a hâte de la déguster, cher Martin. Derrière la console pour mitonner cette émission en direct, Laurent Thomas, Guillaume Roux, Fabrice Rivaud. Dans un instant, on cuisine et on vous raconte l'asperge. J'adore l'asperge et...
J'adore le monde. Les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. Je dors le monde. Car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde. J'adore le monde. J'adore la nuit.
j'ai peur de la nuit. J'adore le monde, la galaxie. Quand la vie te sourit, y'a rien de plus sans cesse. Tu décolles, seul bémol. Quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit. Tout petit, petit. Tout petit, tout petit. Tout petit, petit, petit. À côté de la plaque.
J'adore le monde, The Liminanas avec Bertrand Belin, choisi par notre programmateur musical Djoubaka. Bon appétit et vive le printemps sur France Inter, l'asperge sous tous ses aspects.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Martin m'a invité à dîner, et j'adore quand Martin m'invite à dîner. Il m'a servi, sans me demander mon avis, connaissant mon amour immodéré pour le cochon, une salade d'asperges blanches, évidemment d'Alsace, aux oreilles de cochon grillées. C'était l'un des plats emblématiques de l'Agneau d'Or, le restaurant qu'il tenait à Münster, où j'aimais tant venir m'attabler. Un plat signature, comme on dit aujourd'hui. Il me l'a servi, cette salade, je m'en souviens, avec un pinot gris Ehrenreben du domaine Schönheinz à Wihrowald. Il sait trouver les mots pour me convaincre. Il m'a aussi fait découvrir l'asperge lacto-fermentée. C'est ce soir-là que nous avons décidé de consacrer à l'asperge un futur petit traité, parce qu'elle le mérite bien.
Merci Pierre-Brice Lebrun, vous nous lisiez un extrait de votre prose dans ce petit traité de l'asperge aux éditions du Sureau, coécrit avec votre ami Martin Fache. Comme quoi les grandes décisions se prennent toujours autour d'un bon repas.
Mais évidemment, évidemment.
Et on retrouve évidemment page 14 de ce petit traité, cette fameuse recette qu'on avait très envie de goûter. Vous nous avez fait la gentillesse de nous la préparer. Merci beaucoup, Martin Fache. Salade d'asperges blanches aux oreilles de cochon grillé. Vous avez fait savoir à Fabrice Rivaud, qui prépare l'émission avec moi, que les oreilles de cochon, c'est décidément de plus en plus compliqué à trouver.
Ah, c'est de plus en plus compliqué à trouver. J'ai dû faire 3-4 bouchers, parce que les bouchers reçoivent actuellement toutes les bêtes piécées. Donc personne n'a pris plus d'oreilles ou de porc entier. Donc c'est vrai qu'un petit boucher d'un village à côté de chez moi, chez la boucherie Hertley à Sulzeren, qui a pu me procurer des oreilles de cochon fraîches qui m'ont permis de préparer cette recette.
C'est bon les oreilles de cochon avec ce petit cartilage qui croque. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, hein. C'est un peu clivant comme on dirait aujourd'hui.
Je sais pas, moi,
tout est bon dans le cochon pour Pierre Bécherin.
C'est un peu canaille, quoi.
C'est un peu canaille, exactement. C'est le mot qui convient, c'est un peu canaille. Comment, racontez-nous cette recette asperges blanches, cochon, oreilles de cochon grillées, un petit assaisonnement.
Voilà, donc les oreilles, bien sûr, il faut les cuire la veille. Prenez les oreilles demi-sel, on les fait cuire dans un court bouillon. Mm-hmm. On laisse refroidir. Une fois refroidi, on va émincer ces oreilles en fines lamelles. Les asperges cuites à part. Un petit lit de roquette ou de mâche ou de pissenlit, pourquoi pas. Déglacer les oreilles après, faire revenir les oreilles, déglacer au vinaigre de framboise. Un petit assaisonnement, huile de colza grillée, sel, poivre, vinaigre de framboise.
Voilà. Alors Céline, ça a l'air de vous plaire.
Depuis tout à l'heure, je m'interroge sur cet assaisonnement, et qui est magnifique en fait. Je trouve justement qu'il sublime les asperges et les oreilles de cochon. Il les fait même passer, pour ceux qui aiment un peu moins ça.
Donc c'est vrai que l'huile de colza grillée, c'est une huile qui était très utilisée autrefois en Alsace. On en mettait également sur les fameuses tartes flambées. Normalement, on arrose toujours un petit peu la tarte flambée avec de l'huile de colza grillée.
C'est des textures qui sont géniales aussi. Le côté croquant et gélatineux de l'oreille de cochon, le fondant parfait de l'asperge, ça se répond vraiment bien, c'est épatant. Et l'oreille de cochon a un petit goût de noisté, par ailleurs, qui va très bien avec la chair de l'asperge.
Et vous savez ce que j'aime, moi c'est alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'effet recherché, mais c'est la tiédeur, c'est la température. Ces oreilles de cochon encore un peu tièdes qui viennent assouplir légèrement la roquette. Moi, ça me rappelle un peu la salade lyonnaise avec le lard aussi chaud en général qui vient réchauffer un peu la salade frisée. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait, oui. C'est le but recherché. Hein.
Comme ça, vous comprenez pourquoi j'ai voulu faire le livre avec Martin, évidemment. Parce que les recettes, on les a toutes goûtées.
On ne peut que tomber dans le panneau, bien entendu.
Tu m'étonnes. Et goûter plusieurs fois parfois, parce qu'il fallait ajuster. C'est très très dur comme métier, mais c'est formidable.
Et bien sûr que c'est dur. Alors la cuisson de l'asperge, elle suscite beaucoup d'interrogations. Comment vous les avez cuites, ces asperges blanches d'Alsace?
Alors, celles-ci ont été d'abord coupées en biseaux et après cuites dans un...
Épluchées évidemment,
bien sûr.
Mais ça on ne le précise pas.
Quoique, on n'est pas obligé d'éplucher une asperge.
Ah bon?
Tout est comestible dans l'asperge, on l'est plutôt pour une raison de goût et de texture.
D'accord.
Parce que c'est pas agréable.
Il faut pas qu'elle soit trop fibreuse.
Voilà, mais logiquement... on n'est pas obligé de l'éplucher.
D'accord.
La verte, d'ailleurs, ne s'épluche pas. Juste la base qui peut être filandreuse, mais bon. Alors, l'asperge blanche, si on la cuit entière, grande casserole d'eau salée,
oui.
À peu près 10 grammes au litre.
Donc, ce qu'on appelle communément une cuisson à l'anglaise.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Avec, on sale, j'ai retenu ça dans votre livre, on sale l'eau un peu dans les mêmes proportions que pour l'eau de cuisson des pâtes, c'est-à-dire 10 grammes par litre d'eau.
C'est ça,
10 grammes de sel par litre d'eau.
10 grammes au litre, à peu près. Bon, ben, en cuisine, on ne pèse pas, on a une question dans l'habitude. Donc, on plonge les asperges là-dedans, on laisse remonter.
Tête incluse ?
Tête incluse.
Ah.
Bon, certains. Bon, moi, je les mets en vrac.
Hélène Darroze, la semaine dernière, nous expliquait qu'elle les bottait
et qu'elle
mettait la tête hors de l'eau, histoire qu'elle ne se noie pas.
Moi, j'ai même une casserole spéciale.
C'est très bien.
Mais je vais être franc avec vous, la plupart des restaurateurs les mettent en botte et les plongent entièrement dans l'eau, pas forcément la tête vers le haut.
D'accord.
Donc moi, un truc tout simple, l'asperge, on la fait bouillir. Mm-hmm. Dès que ça bouille, on laisse bouillir 5 minutes. On baisse le feu à petit bouillon.
Oui.
Dès que l'asperge va tomber vers le fond de la casserole, c'est qu'elle est cuite.
Et il faut compter à peu près combien de temps pour que...
Tout dépend du calibre
de l'asperge. Elle plonge au fond de la casserole, d'accord.
Une fine va mettre une dizaine de minutes.
Oui.
Une épaisse va prendre peut-être 14-15 minutes. Voilà.
Voilà qui est clair.
Et pour stopper la cuisson, un peu d'eau fraîche dans la casserole et elle reste...
Ça, c'est un truc que j'ai découvert. Voilà. Je ne connaissais pas, effectivement, pour garder au chaud ou des asperges un peu tièdes juste avant le service, parce que c'est bon d'avoir des asperges un peu tièdes avec la sauce hollandaise, ou la sauce gribiche, ou même une vinaigrette toute simple. Effectivement, vous coupez la cuisson de l'asperge en ajoutant quelques louches d'eau froide dans la marmite, dans la cocotte.
Marmite. Et on retire du feu, bien sûr.
Bien entendu. Et là, l'asperge ne continue pas à cuire, mais elle reste gentiment
au chaud.
Très bonne idée. Bon, asperge, on a bien compris que c'était une... Elvira ?
Marie-Christine nous écrit qu'elle garde les éplucheurs d'asperges, si tant est qu'on les épluche, pour faire des bouillons.
Oui, tout à fait.
Très bonne idée.
Bon, n'oubliez pas de laver vos épluchures.
Oui.
On a compris que l'asperge était une véritable religion en Alsace. On a d'ailleurs eu un petit mail quand on a annoncé l'émission la semaine dernière. Dominique Kraft, le chargé de relations presse de l'association de promotion de l'asperge d'Alsace. Attention, c'est du sérieux.
Ah oui, ça...
Il nous explique qu'en Alsace, on mange deux fois plus d'asperges que dans les autres régions françaises. Et autre point intéressant, sociologique, l'asperge d'Alsace est commercialisée à 65% en vente directe à la ferme. Mode de distribution finalement assez unique en France quand même. On va acheter ses asperges directement à la ferme en Alsace comme on irait acheter un peu sa choucroute.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a dans tous les carrefours, tous les ronds-points en Alsace, vous avez des petites cabanes, asperges, fraises, où les producteurs mettent leurs asperges en vente, les voitures s'arrêtent, c'est un peu comme un drive si on veut, et vous achetez vos asperges.
C'est quoi les prix ?
Actuellement, les premières asperges en Alsace, donc les prix sont assez élevés. Il faut compter environ 15-16 euros le kilo pour les belles. Et ça descend pour les déclassés à 8 euros.
Est-ce qu'on doit parler, Père Brice-Lebrun, d'un légume de luxe ? Moi-même, j'ai constaté un prix ahurissant hier. J'ai essayé d'acheter des asperges blanches, alors certes bio, mais à 19,90 euros le kilo. On est à Paris,
Oui, vous êtes à Paris. Moi, je suis dans les Landes. Là, en début de saison, le kilo d'asperges est à 10 euros en bio. Et on a déjà des 5 euros déclassés.
Ben
il va descendre à 8
déjà.
Et à 6. Ah oui, ça va beaucoup mieux.
Et au fil de la saison, ça descend,
oui,
vous
ça
nous
descend,
confirmez.
Ça descend à 6 euros en fin de saison, et les déclassés, on peut les avoir à 3-4 euros. Mais pour faire toutes les recettes d'omelettes, de machin, déclassées, ça va très bien. Elles sont aussi bonnes. Elles sont tordues, elles sont plus petites, mais elles ont autant le goût. C'est sûr qu'à ce prix-là...
Bien sûr. Alors, vous êtes landais, mais ça n'a pas toujours été votre condition de vie, cher Pierre-Brice Lebrun, puisque vous êtes d'origine, on l'a dit, belge, et vous avez découvert les asperges. C'est ça qui est intéressant à la lecture de votre livre. J'aime toujours autant votre prose prime sautière. Vous avez découvert les asperges comme un légume officiellement blanc, et plutôt du nord de l'Europe.
Oui, moi je le connaissais qu'en Belgique, et c'était un plat pour moi très, un peu bourge, quoi, très important. C'était le dimanche, le truc un peu avec Michel Drucker à la télé, enfin le truc un peu lourd. Et pour moi, oui, c'était un légume uniquement du nord. J'imaginais pas qu'on en avait ailleurs, et je n'imaginais pas qu'il existait des asperges vertes. J'ai découvert ça beaucoup plus tard, en grandissant, quoi. J'ai jamais vu ça. Et depuis, j'ai goûté de l'asperge en Suède, au Danemark, en Norvège, où ils en cultivent d'ailleurs. J'en ai goûté un peu partout, dans le sud. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'asperge partout. Et de la verte, et de la blanche, et de la violette.
Mais alors, pour vous donner raison, vous citez le plus ancien texte qui mentionne l'asperge dans les temps modernes et qui provient effectivement du nord de la France. D'après un inventaire fait en 1469, le potager des chanoines de la collégiale Saint-Amé, près de Douai, comprenait entre autres légumes, des asperges, oui, entre guillemets, mais c'est donc bien un légume du Nord. Comment on explique cette géographie
Alors, à mon avis, par les voies maritimes. La naissance de l'asperge, c'est l'Anatolie, donc l'Asie mineure. Ça s'est répandu, elle s'est répandue dans tout le Moyen-Orient. Elle a suivi le même parcours que la vigne, Et il est très probable qu'elle soit arrivée en Belgique et en Hollande par la mer, par Bruges ou par Amsterdam ou Rotterdam. Il y a énormément d'ingrédients qui se sont diffusés comme ça par les moines, par les marins et par les militaires. C'est vraiment les trois vecteurs de transport, on va dire, des nouveaux aliments. Et donc, elle s'est installée. D'ailleurs, la première asperge arrivée en France s'appelait l'asperge hollandaise. L'asperge de Hollande. Et d'ailleurs, dans le petit traité, moi, j'ai une hypothèse, c'est que la sauce hollandaise, en fait...
Elle
s'appelle hollandaise parce qu'elle accompagnait les asperges, tout simplement.
On a envie d'y croire.
Ben oui, parce que l'histoire officielle de la sauce hollandaise, elle ne tient pas la route 30 secondes comme beaucoup d'autres histoires. Et donc, je pense que c'est le contraire, en fait. Elle a pris le goût de... Et d'ailleurs, maintenant, il y a une espèce de... Comment on va dire descendante de cette sauce, c'est l'asperge à la flamande, qui pour moi est la recette la plus absolument formidable du monde. Voilà. C'est des œufs mollets, très mollets, écrasés dans du très bon beurre, avec du persil frais. Ah, il faut beaucoup de beurre, mais beaucoup. Hein, c'est
Mais c'est combien, beaucoup?
Ah, c'est plus. On se rapproche de la purée connue de rat où il y a autant de patates que de beurre. Si
ah ouais,
c'est important, quoi.
Non, il faut en mettre un peu moins, mais moi je suis plutôt d'origine gourmande.
Non, mais attendez, c'est surtout qu'au pays de la... graisse de canard, quand même.
Oui, ça se
Vous avez l'audace de faire découvrir à vos amis landais la sauce hollandaise pour accompagner l'asperge des Landes avec du beurre.
Oui, mais ça marche bien parce que l'asperge à la flamande, j'ai des fans, j'ai des vrais fans. Je garde la graisse de canard pour les asperges vertes. Alors ça, c'est formidable.
Intéressant.
Ah oui, pas d'eau, directement à la poêle, asperge verte, et alors avec un magret,
c'est parfait.
Une pièce de bœuf, c'est un rêve absolu.
Pierre-Brice Lebrun, vous nous apprenez aussi, c'est un fait tout à fait étonnant, que les Allemands sont les premiers consommateurs et les premiers producteurs d'Europe d'asperges.
Oui, c'est une vraie religion, là, apparemment, avec des restaurants qui ne font plus que de l'asperge pendant la saison, avec une fête de l'asperge. Il y a 5 ou 6 musées de l'asperge.
Oui, c'est
très fort aux enfants qui ont dû les visiter à l'école, les pauvres. À côté de Berlin, ils élisent une reine de l'asperge, c'est aussi assez particulier. Les Allemands consomment, c'est en moyenne toujours, 1,5 kg d'asperges par an, alors que nous, on est à 250, 350 grammes. Et ils en produisent de tête 110 000 tonnes.
Incroyable.
Alors que nous, on est aux alentours de 20 000 tonnes. Et donc, on importe en France 10 à 15 000 tonnes d'asperges allemandes parce qu'on en manque. Bien qu'on en... Voilà, ils en consomment énormément.
Et pour autant, vous m'expliquiez en préparant cette émission que la consommation d'asperges tend à baisser, en tout cas en Europe, parce que l'asperge, par ailleurs, a colonisé le monde entier, on va le voir. Le nord de l'Afrique, il y en a beaucoup en Chine, beaucoup sur le continent asiatique, absolument partout. L'asperge est un légume universel, mais c'est aussi un légume de vieux.
Je pense que l'asperge blanche a cette image un peu de dîner chez papy-mamie ou déjeuner du dimanche chez papy-mamie. Il y a un côté un peu lourd. Après, vous avez donné les prix tout à l'heure quand même.
Il y a aussi ça qui peut...
Oui, ça, c'est, je veux dire, 20 euros le kilo d'asperge. Et puis... nous, en Alsace ou dans les Landes, on a la chance d'acheter les asperges direct producteurs. Elles ont été cueillies la veille. Je ne sais pas combien de temps il leur faut pour arriver à plein d'endroits. Plus elles sont vieilles, plus elles sont fibreuses. Plus on attend, plus il y a des fibres. Donc, si on ne sait pas bien les cuire et qu'on a des asperges fibreuses à 20 euros le kilo, je comprends qu'on n'en prenne plus. Et l'asperge verte a plutôt tendance à s'imposer maintenant.
Et oui. Alors, vous avez découvert sur le tard, effectivement, que l'asperge peut être verte. Clarifions un point très important et on a pas mal de réactions de nos auditeurs et de nos auditrices sur ce sujet. La différence entre une asperge blanche et une asperge verte, ce n'est visiblement pas une question de variété, mais une question de méthode de culture.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des asperges vertes qui sont des asperges sauvages, ça c'est encore autre chose.
On en parlera.
Voilà, mais l'asperge blanche, elle grandit en général dans le sable ou dans un sol très meuble, sous des buttes de terre ou de sable, couverts par une bâche. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas la lumière, c'est pour ça qu'elle reste blanche. Alors que l'asperge verte, il n'y a rien, elle sort, donc chlorophylle, réaction normale.
C'est donc l'asperge verte est une asperge blanche qui a fait sa photosynthèse,
c'est ça, mais
qui a vu le soleil.
C'est ça, mais qui a surtout poussé plus vite parce que soleil, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus fine et on l'accueille plus tôt. Alors que l'asperge blanche, comme elle est au chaud, là en dessous de sa butte, je pense qu'elle est tranquille. et elle prend plus de temps pour grandir. Et au-dessus de la butte, il y a même des bâches, donc ils font vraiment très attention qu'elle reste noire. Et quand il y a un petit turion, donc la pointe de l'asperge et le turion, quand il est un peu rosé, ça veut dire qu'il a vu le jour. Et l'asperge violette, c'est celle qui a vu le jour tardivement.
Parce qu'alors, botaniquement, l'asperge, c'est quand même un drôle de machin, hein. C'est une espèce d'énorme,
oui, c'est un rhizome, ouais.
D'énorme rhizome.
C'est ça.
Et qui peut vivre plusieurs années.
Plusieurs années, oui.
Et qui fait ce qu'on appelle des turions, qui sont ces fruits.
En fait, c'est une racine souterraine qui va donner 3-4 asperges par pied, comme ça, dans la saison, parfois un petit peu plus. Et oui, c'est une espèce de... C'est un peu une pieuvre à l'envers, quoi, en fait, voilà, avec ses tentacules qui seraient des asperges.
Martin Fache,
si je peux me permettre, il existe également une variété d'asperges qui est pourpre.
Oui.
Donc c'est comme l'asperge verte. Bon, malheureusement, elle perd la couleur à la cuisson. Ouais, elle contient beaucoup d'anthocyanes, comme le chou rouge, par exemple. Mais cette asperge verte, pour garder la couleur, l'idéal, c'est de la déguster crue. Vous en faites un carpaccio d'asperges ou un tartare d'asperges avec
un
poisson.
Très, très bon, ça aussi.
Avec des asperges violettes, vous avez la couleur qui change de l'asperge traditionnelle et qui surprendra vos amis, quoi.
Mais même une asperge blanche peut épouser, au moment de pousser, des reflets un peu violacés. La pointe est souvent un peu pourpre, comme vous le dites. C'est vrai que l'asperge verte, elle est peut-être, en termes de goût, un peu plus flatteuse, avec ce goût de petit pois que les gens apprécient. Petit sondage autour du plateau dont on va déguster. Ceux qui préfèrent l'asperge verte, levez le doigt, à l'asperge blanche.
Moi non. Je préfère la
blanche.
Vous êtes de vrais gourmets. Hein. Parce que l'asperge verte, en effet, commence à damer le pion à l'asperge blanche.
Et d'ailleurs,
on essaye de rajeunir l'image de l'asperge blanche.
Et là, j'ai vu, il y a des asperges des Sables des Landes qui sont vendues en 7 minutes chrono au micro-ondes. Ils sont vendues dans un emballage pré-cuit. Et c'est 7 minutes chrono au micro-ondes, peut-être pour accéder à un public plus jeune et qui veut moins.
C'est très romantique.
J'ai pas du tout envie de tester, mais si ça permet à certains d'accéder à l'asperge blanche, ça peut être un premier pas.
France Inter. On va déguster.
Elvira Masson.
Vous l'avez dit, Pierre Brice, il n'y a pas qu'en Provence ou dans les Landes qu'on cultive l'asperge, on en trouve désormais, en Bretagne. La récolte des asperges blanches a démarré tout juste à la Torche, dans le Finistère, sur la commune de Plomeur. On n'est pas loin de Quimper, je ne sais pas si vous voyez la pointe de la Torche. C'est un endroit vraiment magnifique, une presqu'île battue par les vents, bordée de dunes sur laquelle poussent des asperges sauvages notamment. C'est l'observation de ces asperges sauvages qui a poussé Karel et Véronique Captain. Ils sont à la tête de Bigoud, génération Bigoud, Bigoudin, Bigoudaine, vous l'avez.
Ah, pas mal.
À se lancer dans l'asperge il y a une douzaine d'années pour diversifier une activité de culture de carottes, poireaux, pommes de terre, échalotes et fleurs. Leurs asperges blanches et vertes également s'épanouissent sur ces terres sablonneuses et des avis que j'ai recueillis, elles sont plus que délicieuses, fines, sucrées, subtiles.
Qui les a goûtées autour de ce plateau ?
Parce qu'elles ne sont pas dans votre livre.
Oui, elles ne sont pas citées dans le petit traité de l'asperge.
Non, mille pardons, Breton.
Bon, il y en a partout.
On fera un tome 2.
Vous ne revendiquiez pas l'exhaustivité, c'est pas possible.
Non, alors il aurait fallu faire une Bible.
Voilà. Bien sûr. Alors je ne les ai pas goûtées.
Voilà.
Mais elles sont proposées en vente directe à la ferme, également dans les grandes surfaces du coin. Et on les retrouve sur quelques bonnes tables de la région, de plus en plus. L'Allium à Quimper, les Sources à Lorient. Et je rêve de les goûter. J'ai trouvé que c'était une chouette histoire, celle de ces paysans qui diversifient leur culture. Qui ont foi dans leur terre et qui fait du bien, cette histoire, surtout si, comme moi, vous avez lu récemment une histoire longue et complexe qui se déroule pour partie en Bretagne, notamment dans ce Finistère qui était encore si rural au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire enfouie du remembrement raconté par Inès Léraud dans « Champ de bataille » aux éditions Delcourt, dessiné par Pierre Van Hove, qui était déjà son coéquipier pour son livre précédent consacré aux algues vertes. Alors le remembrement, c'est quoi exactement ? C'est l'opération de grande ampleur qui a consisté pour l'État français à partir des années 40 à faire redessiner les terres agricoles afin que les champs soient facilement accessibles et cultivables par des machines. Redessiner, ça voulait dire tout bonnement araser les haies et les talus pour agrandir les parcelles. Le but ? Augmenter la productivité pour que la France devienne une grande puissance agricole. En bref, le remembrement a été fait pour adapter les paysages aux tracteurs. C'est passionnant parce que c'est une histoire méconnue, peu transmise surtout, qu'Inès Léraud nous raconte dans le détail au plus près de ces villages de Bretagne, de la Marne, de la Haute-Vienne, au plus près des témoins de l'époque, de ceux qui sont encore là, de ceux d'aujourd'hui. Un travail exceptionnel aussi de décortiquage d'archives locales pour nous transmettre cette histoire de la façon la plus précise, factuelle et humaine qui soit. Le dessin de Pierre Van Hove y contribue largement. Sans l'usage de la bande dessinée, pas sûr qu'on la lirait vraiment, cette histoire de remembrement. C'est surtout l'histoire d'une violence, d'une politique d'intimidation, d'une domination de Paris sur les campagnes, des sachants sur les paysans et des tenants du soi-disant progrès contre le soi-disant archaïsme. Une violence qui a dû compter, et c'est le cœur de ce récit, avec la résistance de paysans courageux qui ont tenu comme ils ont pu, à commencer par ceux de Fégréac, du côté de Redon, où un soulèvement paysan a été violemment réprimé en 1953. Ces paysans qui ont contesté le remembrement étaient les fers de lance d'une lutte écologique qui ne disait pas encore son nom. Dans une interview, j'ai lu Inès Leroux dire ceci. « Le remembrement, c'est un jalon pour saisir la fin d'une civilisation. » Car ce remembrement, c'est aussi le pommier à cidre que l'on arrache, alors qu'il assurait un petit complément de revenu. C'est des chemins creux détruits où les enfants ne joueront plus. C'est un monde qu'on a abandonné. C'est une société paysanne résiliente et autosuffisante qu'on a liquidée. Le remembrement, c'est une fracture du monde paysan, autant que des paysages qui ne s'en sont jamais remis. C'est tout ça, et c'est beaucoup, qu'Inès Leroux a mis dans son livre, et ça m'a passionnée autant qu'émue.
Et le remembrement, c'est aussi, vous l'avez dit, la destruction des haies,
du
des
bocages,
qui étaient de véritables réservoirs de biodiversité. Et là, on en revient d'ailleurs, heureusement,
on fait
machine arrière, et effectivement, on commence à replanter des kilomètres de haies, notamment en Normandie et ailleurs.
On replante des kilomètres de haies, mais on n'aide pas les jeunes paysans à s'installer, et on ne lutte pas forcément... pour la suppression d'un modèle intensif.
Donc, il est donc urgent de lire roman graphique dont vous nous rappelez les références, Elvira.
Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, c'est chez Delcourt et la revue dessinée. Passionnant, passionnant.
Vous l'avez lu ?
Je l'ai lu, et surtout Inès Leroux, on lui doit aussi Les Algues Vertes.
Oui, oui.
Absolument.
Un excellent podcast aussi qu'elle a fait au sein de la même maison que nous. Ça, c'est très beau travail.
Je peux vous le piquer ou pas ?
Bien sûr.
Bon, eh ben, écoutez, ça me fait très plaisir, et puis on ira du côté de la torche dans le Finistère.
Ah oui.
Oui.
Et ce qu'a raconté Elvira est intéressant sur les asperges en Bretagne, parce que c'est le même circuit qu'ont suivi les asperges du nord de la France. C'est en voyant les asperges sauvages de Gravelines, qui poussaient naturellement dans les dunes, que les premiers agriculteurs, paysans, ont eu l'idée de planter ces fameuses asperges hollandaises, qui ensuite ont colonisé tout le nord. Mais c'est en partant de l'asperge sauvage, en disant si ça pousse, ben les nôtres, elles vont pousser aussi.
Passionnant.
Tiens, un auditeur, Pascal, nous écrit, nous avons dégusté les asperges de la torche hier soir au restaurant Les Mouettes, à l'Armor Plage, succulente.
Splendide. Dans un instant, oulala, il nous fait de l'œil, ce Kouglof aux asperges vertes, ouais, préparé par Martin Fache. Vous allez nous expliquer la recette, et puis encore très étonnant, avec les fromages que nous a rapporté notre ami Pierre-Brice Lebrun, une confiture d'asperges, l'asperge blanche au registre sucré, c'est possible. On verra aussi avec Céline Maguet qu'accorder l'asperge avec les vins n'est pas forcément un casse-tête. Ça c'est juste après Early James Go Down Swinging, mais juste avant je vous propose un petit détour dans le Blayais, au nord de la Gironde. J'ai eu la chance d'assister à la récolte des asperges du Blayais, qui se distingue, comme vous le savez, Pierre-Brice, par une IGP.
Tout à fait.
Indication géographique protégée. Et ça se passait chez la productrice Claire Arino.
Les champs sont en fait vraiment implantés dans des bois et des forêts. On est sur un sol plutôt sableux, mais très noir, très tachant. Et donc l'asperge blanche y est cultivée, mais aussi la verte. On plante la cuillère à asperge le long de l'asperge, de façon à ne pas l'abîmer, et comme ça vous avez la longueur souhaitée au niveau de l'asperge blanche. En fait, voilà, la butte elle sert à ça. Elle suffit en fait en hauteur à avoir une grande asperge, sinon vous allez avoir une asperge trop petite.
Donc en fait on a juste la pointe qui dépasse.
Oui, alors c'est peut-être le plus compliqué aussi, c'est de trouver la pointe de l'asperge parce qu'elle se cache dans les mottes de sable. Alors en fait, en pivotant, vous la cassez.
Il faut quand même un petit coup de main, quoi.
Faut pas un petit coup de main, faut le savoir faire, c'est tout. Et il y a des personnes qui ne l'ont pas.
Oh, I'm playing duck, duck, goose inside a chicken coop. My the fox and my the hound. Am I the verb? Am I the noun? Did I fall in love with a villain? Someone who'd kill to make a living? Well, I'll never die a hero, so let me go down swinging. Thank you.
till there's candy in their noses. Red Rover, come on over. Gonna need a headstone, need a chauffeur. Did I fall in love with a villain? Someone who'd kill to make a living. Well, I'll never die the hero. So let me go down. The fat lady singing, so let me go down swing.
Oui, faisons-lui fête. Légumes prudents, c'est la note honnête d'un festin ardent. J'aime que sa tête croque sous la dent. Pas trop cependant, énorme elle est bête. Fluette, il lui faut plier ce défaut au rôle d'adjointe et souffrir, mêlé au vert de sa pointe, l'or de l'œuf brouillé.
Charles Moncelet, c'était le sonnet de l'asperge. Hein, Charles Moncelet, poète gastronome de la fin du 19e siècle, et nous avons évidemment cueilli ce poème lu par Elvira Masson dans le petit traité de l'asperge aux éditions du Sureau. Ses auteurs, Pierre-Brice Lebrun et Martin Fache, sont nos invités.
Sur France Inter, on va déguster.
Des questions d'auditeurs, hein, ça réagit beaucoup sur notre mail.
Et
oui, oui, et sur nos réseaux sociaux, il y en a qui nous reprochent d'oublier une asperge que vous n'avez pourtant pas oubliée, Pierre-Brice Lebrun, dans votre petit traité de l'asperge. C'est l'asperge d'Argenteuil.
Ah oui, bien sûr.
Alors, un petit mot.
Bien sûr, l'asperge d'Argenteuil, c'est la variété maintenant. C'est elle qui a colonisé toute la France. En Alsace, ce sont les asperges d'Argenteuil, dans les Landes, enfin partout. Voilà. Et l'asperge d'Argenteuil, Argenteuil a été vraiment la plus grande. On ne le sait pas d'ailleurs. Hein, ça a été d'abord le plus grand vignoble de France.
Et oui, étonnant. On est en Ile-de-France hein, quand même. Val d'Oise.
C'est ça. 1586 de tête, les meilleurs vins sont de Saint-Cloud, de Suresne et d'Argenteuil. En France, c'est vous dire quand même comment ça a changé. Et donc, c'est une des plus grandes plaines légumières de France. Et l'asperge, en fait, elle va à l'asperge d'Argenteuil. C'est une hybride de l'asperge hollandaise qu'on va planter entre les vignes. Elle va être plantée entre les vignes. Et puis, le phylloxéra qui va arriver fin 19e va éradiquer la vigne. Et ils vont remplacer la vigne par l'asperge. On est à plusieurs milliers de tonnes d'asperges.
Incroyable. Et il paraît qu'elle a voyagé dans toute l'Europe.
Ah oui,
c'était un produit très très réputé.
Exactement, parce que non seulement elle est exportée, mais celui qui a théorisé la culture a aussi fait un livre pour expliquer comment la planter. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de tordre le cou à beaucoup de légendes sur l'arrivée de l'asperge qui sera arrivée d'Algérie, qui sera arrivée de partout. En fait, à chaque fois qu'il y a une légende, elle ne correspond pas à l'invention de l'asperge d'Argenteuil. Donc ça ne tient pas à la route, quoi. Mais c'est vraiment la méthode, on va dire, qui a été... ce monsieur s'appelait Louis Isidore Victor Lérault.
Oui.
Et en 1860, donc il a créé deux variétés, l'asperge blanche d'Argenteuil et l'asperge rose hâtive d'Argenteuil. Donc il laissait sortir un petit peu. Et elle est partie... Elle est présentée à l'exposition universelle en 1867. Il a aussi théorisé la façon de la cultiver, donc les buts, etc., c'est lui. Et elle est partie partout. L'asperge en Suisse, à Saillon, c'est une asperge d'Argenteuil. Voilà, c'est une
Alors, la production d'asperge d'Argenteuil, aujourd'hui, on a pris un coup, mais on trouve encore quelques producteurs, et cette asperge d'Argenteuil parade à nouveau dans les restaurants parisiens. C'est une excellente nouvelle, j'apprends dans votre livre. Petite anecdote que j'aime bien, le 21 mai 1980, vous savez ce qui s'est passé?
Ah oui, c'est un repas avec François Mitterrand.
Oui, il fête son investiture à l'Elysée, avec 200 amis.
Oui.
Foie gras des Landes, blanquette de homard breton.
Oui, on savait vivre.
Et Belle d'Argenteuil, accompagnée d'un morceau Goutte d'or 1973. Ouais.
C'est-à-dire Belle d'Argenteuil,
on ne se refusait rien à l'Élysée.
Non, c'est tranquille, oui. Après, il faut agrader l'Ande parce qu'il avait sa maison à Latché. Je pense que c'est un petit clin d'œil là-dessus. Mais oui, on ne se refusait rien. Ouais. Et il y avait des asperges, des œufs brouillés aux asperges dans le Titanic. Le dernier jour, par contre, je vais plomber l'ambiance encore pour le déjeuner.
Et c'était d'Argenteuil ?
Alors, on ne sait pas si c'était des vertes ou des blanches, parce que le cuisinier ne s'en est pas sorti. Mais en tout cas, c'est un des derniers repas du Titanic.
Waouh. Et puis, alors Elvira nous en avait déjà dit un mot il y a quelques mois, mais cette histoire magnifique de l'asperge de Manet.
Oui.
Puisqu'il y a un tableau représentant une asperge que l'on peut contempler au musée d'Orsay à Paris.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est une blague de Manet, puisqu'on lui a commandé en 1880 une botte d'asperge.
C'est Charles Effrussi, hein,
Charles Effrussi, voilà.
Critique d'art, banquier, collectionneur.
Oui, c'est ça. Et c'était un mécène aussi. Et il a dû faire ça. On le trouve d'ailleurs, tiens, de dos avec un haut de forme sur la toile Le Déjeuner des canotiers de Renoir.
Intéressant.
C'était un ami de Renoir. Et il y avait beaucoup de peintres qui allaient peindre à Argenteuil. Je pense que c'est pour ça qu'il a demandé une botte d'asperge. Et il a commandé, donc Manet lui a fait un petit tableau qui est exposé à Cologne.
Oui.
Et qui fait à peu près 50 sur 50 cm, avec une petite botte d'asperge. Et ils avaient convenu que ce serait 800 francs.
Oui.
Et 800 francs, ça fait 3000 euros, à peu près. Et peut-être que Charles Effrussi a trouvé ça très bien, il a envoyé 1000 francs à Manet. Et donc,
beau geste. Au lieu de 800, au lieu des 800 demandés.
Et donc, est-ce qu'il a voulu l'autre, est-ce qu'il était vexé, Manet, on ne sait pas, ou est-ce qu'il a voulu plaisanter, mais il a refait une asperge toute seule, et il l'a envoyé qu'une petite carte. Alors, il y a deux versions sur la petite carte, mais celle qui a l'air le plus sûre, c'est celle-ci a glissé de la botte.
C'est rigolo. Extraordinaire. Et cette asperge seule, hein, pas en botte,
oui,
c'est ce tableau-là qu'on peut trouver, cette petite huile sur toile, au musée d'Orsay. Voilà, si vous arpentez ce beau musée parisien, ne loupez pas l'asperge de Manet. Évidemment, Kouglof à l'asperge verte, signé Martin Fache. C'est une grosse brioche, un Kouglof, ou on va se faire engueuler?
Oui, c'est grosso modo, on peut dire que c'est une pâte à brioche. Bon, c'est pas une recette qui vient de Martin Fache, comme vous disiez, c'est une recette qui vient d'un de mes amis, Henri Bamnitz.
C'est ça.
Qui est un restaurateur qui est à la retraite.
Mais les recettes se transmettent et se transforment.
Qui m'a confié cette recette pour le petit traité de l'asperge. Donc Henri, lui, est vice-président de la confrérie de l'asperge,
oui,
du village neuf.
Mmh.
Donc, le Kouglof en Alsace, c'est une brioche qui se sert aussi bien sucrée, mais également salée. Donc à tous les apéritifs de mariage, vous avez des Kouglof traditionnels et des Kouglof salés. Donc soit au lard, aux noix. Et récemment, avec la confrérie de l'asperge, ils ont mis au point ce Kouglof aux asperges.
C'est bon.
Qui se marie très bien à l'apéritif avec un petit verre de muscat. Là, en l'occurrence, on a un muscat du domaine Kuenz de Pfaffenheim.
C'est vous qui nous l'avez apporté ?
Que j'ai apporté ce matin.
Ah oui. Ben on sait vivre.
Bon, c'est vrai que malheureusement, il est un peu tiède. Il devrait être servi plus frais.
On ne vous en veut pas, Martin.
Le Kouglof, qu'il soit salé ou sucré aux asperges, aux noix, il est toujours servi avec un muscat d'Alsace.
C'est dit.
Ah, c'est dit. Non, il y a des régions comme ça.
C'est compliqué ou pas ce Kouglof à faire ?
Non, c'est pas compliqué.
Il y a une fermentation, une pâte à faire lever.
Une pâte à faire lever, on la fait retomber, on la fait relever après avec les pointes d'asperges crues qu'on a coupées en rondelles, et puis on laisse relever. Donc soit rapidement, ça peut monter en une heure, comme en trois heures, tout dépend de la température ambiante. Et comme dit, toujours utiliser une levure de boulanger fraîche et pas une levure de boulanger lyophilisée. Ou, encore moins, une levure dite chimique. Voilà.
La recette est évidemment à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Dites-moi, l'asperge verte, parce qu'elle a une texture un peu plus croquante, qu'elle résiste mieux à la cuisson de ce Kouglof, et qu'elle apporte de la couleur dans la chair du Kouglof ?
Ça apporte, c'est plutôt côté couleur. Hein. C'est vrai qu'à l'origine, dans le Kouglof, il y a des raisins secs, et là, ça rappelle le raisin sec qu'on mettait à l'origine dans le Kouglof. Voilà.
Vous avez testé toute la recette du bouquin, Pierre ?
Oui, plusieurs fois. Et toutes celles qui ne sont pas dans le bouquin, qu'on a hésité à mettre, qu'on a voulu tester, oui.
Parce que je suis absolument épaté, évidemment, par votre prose qui nous apprend énormément d'anecdotes sur l'asperge et qui fait véritablement un tour du monde de ce légume. Mais alors, on est dans une palette de registres culinaires pour vos recettes, c'est tout à fait étonnant, parce qu'il y a aussi, vous avez beau être alsacien, vous avez cuisiné la recette de manière méditerranéenne, maghrébine, il y a une chachouka aux asperges.
Ah oui, c'est bon ça aussi.
Preuve de l'universalité de ce formidable légume.
Ouais. Voilà. Et comme dit, on a des recettes dans le livre, mais ne vous sentez pas bloqué par les recettes. Vous n'avez pas un ingrédient, vous remplacez, on peut toujours adapter les recettes à ce que vous avez chez vous. Donc ne vous figez jamais à 100% à une recette. On prend une asperge avec un fromage X, vous pouvez remplacer le fromage par un autre, voilà, etc.
Certains nous demandent sur nos réseaux sociaux si l'asperge verte peut se cuire sans passer par la case eau bouillante, c'est-à-dire directement un peu à la Bernard Loiseau, vous savez, une asperge éventuellement équeutée, légèrement épluchée, et directement roulée dans un peu d'eau ou de bouillon avec un peu de matière grasse dans une poêle.
Tout à fait, tout à fait, à la poêle, soit avec une graisse de canard, comme disait Pierre Brice, ou à l'huile d'olive, ou pourquoi pas à la plancha.
Parce qu'on voit de plus en plus d'asperges vertes qui, pour le coup, sont carrément saisies au barbecue ou à la plancha.
Oui, ça marche très bien. Ouais,
et qui caramélisent légèrement. C'est bon, ça aussi. Et elles gardent un côté croquant.
Oui. Et même l'asperge blanche, on peut la faire comme ça. Hein. Une asperge blanche crue, rôtie au
on
beurre.
On peut la snacker, quoi.
Ah oui. Snacker, voilà. Ah, oui.
Et c'est vrai qu'en en tartare, c'est très bon. Ouais. Hein. Une tartare d'asperges blanche, c'est excellent. Hein.
Et la cuisson vapeur ?
Ah oui,
pour problème, les deux.
Oui, oui.
La cuisson vapeur pour les deux. Par contre, une asperge verte en cuisson vapeur va perdre sa couleur. Oui. Le vert sera un vert un peu terne.
Oui. Alors que parce qu'on n'a pas salé.
Parce que l'eau n'est pas salée. Oui. Et la cuisson est beaucoup plus longue. Alors quand elle est bien salée, et vous la refroidissez rapidement à la sortie de la cuisson, elle reste un beau vert vif.
La verte à la poêle, il n'y a rien à faire.
La verte à la poêle, il n'y a rien à faire.
Ah ouais, non, c'est trop bien, c'est trop bon.
Le casse-tête de l'accord asperge avec des vins, c'est l'équation qu'essaye de résoudre Céline Maguet.
On va déguster. Sur France Inter.
Céline Maguet.
Il y a quelques mois, à ce micro, je vous parlais des accords délicats. Œufs, salade à mer, vinaigrette.
Ah, vous avez toujours l'émission compliquée.
Et asperges. Je conseillais alors de les accorder avec un saké.
Je me souviens.
Et aujourd'hui, je ne vais pas y échapper, il est temps de marier l'asperge à un vin. En fait, l'asperge et le vin ne font pas bon ménage, à cause du méthylmercaptan, un composé soufré que contient l'asperge.
À vos souhaits.
Ce même composé qui peut donner cette odeur de céréales smacks à notre urine, après en avoir mangé.
Comme c'est
ça
bien dit.
Ça vous parle ou pas ?
Comme c'est bien dit.
Je vois un peu, ouais.
Le méthylmercaptan va modifier notre perception du vin et lui apporter des notes métalliques. Quand on pense qu'il n'y a pas d'accord qui vaille, il y a toujours la carte secrète de l'accord régional. Une astuce qui n'est d'ailleurs pas réservée à l'asperge. Quand vous ne savez pas, quand vous avez un doute sur un accord, privilégiez un vin issu de la même région que le produit. Ça marche, 90% des cas. Pour les asperges blanches, j'aurais pu aller du côté des Landes, de la Sologne, du pays nantais, mais j'ai voulu vous rendre honneur, Martin, et donc je suis allée du côté de l'Alsace. Après tout, là, on en a parlé, le Kuhglof, l'idée c'est de pouvoir trouver un vin qui s'accorde, et ce vin, vous l'avez dans votre verre. Enfin, pas vous, Martin, car je vous ai servi juste avant.
Alors, on va réparer cet affront.
En revanche, Pierre-Ruiz, vous l'avez déjà goûté, il me semble. Oui. Ce vin, c'est un 100% auxerrois. Alors, géographiquement, l'auxerrois fausse les pistes. Il est bel et bien implanté en Alsace, même s'il est originaire de Lorraine. Et il tient son nom de la ville d'Auxerre, où il a trouvé refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. L'auxerrois, c'est un cépage discret. Il pousse à l'ombre des nobles Gewürztraminer, Muscat, Pinot Gris et Riesling, les quatre cépages autorisés en Grand Cru d'Alsace, à quelques exceptions près. Très souvent, l'auxerrois entre dans la composition des créments d'Alsace. Mais ce serait dommage de le cantonner à ça. Quand il est vinifié seul, il en a sous la pédale. Et ça, c'est la preuve, vous l'avez dans votre verre, avec Entre chien et loup, de Jean-Pierre Rich, un auxerrois planté sur le Stierkopf, un terroir de calcaire et de grès que se partagent les collines de Mutzig et de Molsheim dans le Bas-Rhin. Exposé plein sud, ça donne à cet auxerrois un caractère solaire et gourmand, loin de son image discrète.
Alors, petit commentaire, Martin. Alors,
je suis agréablement surpris. Surtout pour...
Agréablement, c'est-à-dire que l'auxerrois n'avait pas forcément vos faveurs.
L'auxerrois est plutôt un vin, je dirais, léger, friand et léger. Alors là, c'est un vin qui est capiteux, on en prend plein la bouche, plein le nez.
Il a du volume.
Ah oui, c'est magnifique. C'est bon, hein. C'est magnifique.
Et ça se devine déjà à la couleur, quand vous le regardez, il a cette jolie couleur, une robe paille.
On a l'impression qu'il est épais, mais en vert, mais... C'est bien, très bien.
Vous êtes Pierre-Brice ?
Ah oui, j'aime beaucoup, ouais. Ouais, très bien.
On l'imagine bien aussi avec des asperges relevées par des agrumes, par exemple, si on veut sortir de l'Alsace. Orange ou citron, un beurre blanc bien citronné, par exemple. Alors, je vous montre un peu. Hop, ça vous parle ou pas ?
Je ne le connaissais pas, je viens de le découvrir. Parce
jolie étiquette.
En Alsace, on a tellement de vignerons. Entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, c'est... Il y a 51 ou 52 grands crus en Alsace, donc je ne vous dis pas...
Bien sûr. Allez voir Jean-Pierre Rich, je vous le conseille.
On est gâtés. Hein.
Et en fait, justement, Jean-Pierre Rich, il est très reconnaissable par rapport à ses étiquettes. Il travaille depuis... Il est du genre fidèle, hein, ce vigneron. Il travaille depuis 25 ans avec la même dessinatrice, une dessinatrice allemande, de l'autre côté de la frontière. Des étiquettes qui rappellent un peu l'œuvre d'Art Spiegelman, l'auteur du prix Pulitzer Maus en 92. Et avec un peu plus de légèreté, quand même. Et ça permet d'un coup d'œil sur les... Vous allez chez votre caviste, vous les reconnaissez tout de suite.
Alors là, on imagine un beau dessin en noir et blanc qui raconterait une histoire d'amour entre deux animaux. Martin, c'est quels animaux sur l'étiquette ?
Donc on a un chien et un loup.
Un chien et un loup.
Une étoile.
Ben voilà, logiquement,
entre chien et loup.
Pardon, c'est le nom de la cuvée, là, j'ai pas suivi.
Et en fait, ce vin, il est aussi en accord avec les valeurs de ce vigneron. Depuis maintenant une dizaine d'années, il travaille avec Stierkopf Environnement, une entreprise adaptée qui possède 6 hectares de vignes entretenues en bio par des personnes en situation de handicap. Jean-Pierre Rich leur achète du raisin et les emploie aussi en tant que prestataire sur ses propres vignes pour tirer les bois de taille ou gérer le palissage en été. Cette cuvée entre chien et loup provient de leur vigne d'Auxerrois. Et alors, bon, le prix, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. Les asperges, c'est souvent un repas de fête. Donc cette cuvée coûte 18 euros et ça les vaut.
C'est pleinement. Un vin de fête aussi. Voilà.
Et si ce sont des asperges vertes au menu, alors Céline Maguet, comment on s'y prend côté vin?
Alors cette fois-ci, je suis allée du côté de chez mes parents qui sont installés à Pernes-les-Fontaines, pas loin du Mont Ventoux. Mm-hmm. Région célèbre pour ses asperges vertes.
Évidemment.
Tout à l'heure, on parlait des prix d'ailleurs. Là-bas aussi, moi j'aime bien quand ma mère remonte à Paris, je lui demande toujours de me ramener un kilo.
Ah bah moi c'est pareil. Parce que... ma mère, quand elle remonte du Gard, tu vas m'acheter des asperges directement chez le producteur et là, pour le coup, elle les tient à 7,
oui,
6,
c'est ça.
7 euros le kilo.
C'est ça,
oui.
Pour nous parisiens, ça fait du bien. Et donc c'est, cette fois, ce vin-là, j'ai décidé d'aller chercher une ville voisine de Pernes-les-Fontaines qui est Mormoiron, mm-hmm. qui est toujours dans le Vaucluse, avec une vue toujours sur le géant de Provence. Et dans votre verre cette fois, vous avez la bouteille devant vous, Elvira.
Oui.
Je vais vous laisser servir Martin. C'est un assemblage de 3 cépages sudistes, par excellence. Vermentino, Roussanne et Grenache Blanc. C'est la cuvée bouquet du domaine de la Combomas, signée Marie-Sophie Julien et Thomas Ayoun, un jeune couple installé en bio depuis 2019. Cet assemblage est élevé en amphore comme de nombreux vins du domaine. Le couple a récupéré des amphores espagnoles centenaires en terre cuite et en a fait la signature de ses vinifications. Cette fois, c'est une cuvée plus accessible à 14 euros. Et si vraiment vous voulez pousser un peu plus loin le jeu de l'accord, goûtez aussi leur rosé, appelé Roumi, et la boucle est bouclée, car c'est l'autre nom de l'asperge sauvage en Provence.
Alors ? Petit commentaire.
En bouche très florale, une belle vivacité. Bon, avec un... J'imagine ça avec un plat d'asperges sans aucun problème, qu'elle soit verte ou blanche, ça s'accorde très bien.
Parfait, merci
j'étais,
Martin Fache.
J'ai été validé par Martin Fache.
Bah oui, attention, hein, il en a sous le tablier, Martin Fache. Merci beaucoup. Alors, vous évoquez évidemment, je trouve que vous étiez très sympa, hein, l'odeur de céréales Smax. Quand on fait pipi après avoir consommé des asperges, moi perso, aux toilettes, je trouve que ça schlingue. Comment on explique ça, effectivement, cette odeur incroyable de notre urine? Alors, quand on a consommé des asperges, excusez-nous, on est à l'heure de se mettre à table.
Oui, oui, il y a deux versions. Alors, c'est peut-être le méthylmercaptan, c'est pas sûr. Le méthylmercaptan, pour savoir, c'est le même gaz inodore, non pas inodore, justement incolore,
oui.
Qu'utilise le putois.
Ah bah dis donc.
Ça vous donne... voilà,
pour faire fuir les...
Exactement, quand
les
il ennemis. Vous lance... Voilà. Et sinon, ça peut être des composés soufrés qui sont libérés par la dégradation d'acide aminés, comme l'acide asparagusique. Et vous savez bien que l'acide asparagusique, c'est un acide isobutyrique, donc forcément, il y a une légère odeur. On ne sait pas. Mais par contre, ce qui est très drôle avec cette odeur, c'est que tout le monde ne la capte pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sentent pas cette odeur.
Bon,
oui, vous pouvez leur dire, là, j'ai mangé des asperges, ça sent mauvais, et on vous répond, non, je ne comprends pas.
Ah.
C'est-à-dire que c'est pas perceptible
par tous
égaux.
Les nez.
On
d'accord.
Est tous égaux dans le pipi d'asperges. Oui.
C'est extraordinaire. Nous avons une poignée de secondes pour évoquer une dernière préparation, peut-être bien la plus étonnante. Et en plus, il y a un mariage entre des fromages oui. de la région landaise ou Pays basque, hein, je crois,
ouais,
et une confiture d'asperges blanches.
Une confiture d'asperges
blanches.
Allez-vous
goûter. Tout à fait. Comment vous faites ça, Martin?
Alors, c'est très simple. Il faut des asperges.
Mmh. Voilà, étonnant.
Des asperges, du sucre. Un petit gélifiant, parce que comme...
Asperge blanche, hein.
Asperge blanche, oui. Il n'y a pas de gélifiant naturel dans l'asperge, il n'y a pas de pectine, donc il faut rajouter un produit à base de pectine, et j'y rajoute un peu de... quelques pistils de safran qui viennent de mon jardin.
Et qui apportent cette voilà. belle couleur orangée, voilà. C'est tout à fait étonnant. En plus, elle est charnue en bouche, ça fait voilà. vraiment beaucoup de bien. Il y a une légère trame amère.
Une amertume de l'asperge qui reste là, voilà, tout à fait. Et le safran qui relève un peu l'ensemble... Mmh.
Alors, c'est étonnant et très convaincant.
Avec ce fromage,
avec
en
ce
plus,
fromage,
ça va bien.
Le mariage est étonnant.
Confiture
délicieux.
D'asperges blanches. En voilà une préparation ultra étonnante avec ces beaux fromages que vous nous avez apportés.
Désolé, j'ai la bouche pleine.
Mais je vous en prie, c'est pour ça qu'on vous donne la parole.
Oui, il y a un vache au lait cru des Pyrénées ariégeoises. Il y a un chèvre des Pyrénées ariégeoises aussi. Et il y a un fromage fermier de vache, toujours au lait cru évidemment. Tout ça artisanal et super bon.
Merci.
Ça va très bien, un peu comme la confiture de cerise noire sur l'osso virati, par exemple. On est dans la même logique.
Merci beaucoup pour ces beaux cadeaux et beaucoup d'autres recettes à base d'asperges blanches et vertes signées Martin Fache à retrouver dans ce
petit traité de l'asperge. C'est une belle coopération entre vous, c'est une histoire d'amitié. On sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à la rédaction et la dégustation de ce livre, Martin Fasch.
Et je rappellerai juste que le petit traité ne sortira qu'en fin de semaine.
Ah oui, c'est vrai.
Il sort le 11 avril. Dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre.
Mais vous êtes bien entraîné pour faire votre promo, ça fait du bien.
Il faut
aller le réserver chez son libraire.
Ah bah c'est bien, oui.
Petit libraire de quartier, s'il vous plaît.
Oui, voilà. Faites-les vivre.
On va commander ce petit traité, moi j'ai toute la collection, et franchement j'en raffole, c'est une très très belle initiative des éditions du Sureau, un prochain livre en...
On y réfléchit.
Ah,
il faut
okay.
Trouver le thème, on y réfléchit.
On ne peut pas en savoir plus, c'est ça. La semaine prochaine, figurez-vous, on va déguster Dresse le couvert au Festival du Livre de Paris. Vous en serez, Elvira Masson. L'émission sera, attention, non pas en direct, mais enregistrée le vendredi 11 avril au Grand Palais, à partir de 16h30. C'est en public. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs et chères auditrices, pour assister à cette émission consacrée au livre de cuisine. On va parler cuisine marocaine. Il y aura également Jérôme Gagnès, Alessandra Pierini et Stéphane Sollier dans nos fauteuils. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,